La Mishnah nous dit la chose suivante. Agonev Tale Min Haider. Une Mishnah sur laquelle il y a beaucoup de commentaires de la Gemara. Une personne qui vole une brebis Min Haider, donc du troupeau. Vechéziro, et il a remis dans le troupeau. Le problème, c'est qu'il n'a pas prévenu le propriétaire lorsqu'il l'a rendu.
Mais il a prévu quand il a volé, de toute façon ?
Non.
Je suis rendu compte.
Alors ?
Il a prévenu ni quand il a volé, ni quand il a rendu. Le problème qui s'est passé, c'est quoi ? Oumet Onignav.
Ah.
Le propriétaire revient dans son troupeau et il voit l'animal qu'on lui a volé. Il est là, mais il est mort.
L'émotion.
Ah, il lui a rendu
elle
mort.
Elle rentre à la maison.
Je sais pas. Lui, il dit non, moi je l'ai rendu vivant, il est mort chez toi. Il est mort chez toi, qu'est-ce que tu veux ? Mais il a été volé carrément.
Ou il a mal été entretenu pendant la période du vol.
Devant des témoins. C'est encore plus sympa, on va compliquer les choses. Il a rendu devant des témoins. Mais le propriétaire n'était pas là.
Oui, il a rendu mort ou vivant ?
Il a rendu vivant, en bonne santé. Mais le propriétaire n'était pas là.
Bon. Mais il y a des témoins.
Il y a des témoins.
Bah alors.
Le propriétaire n'était pas là.
Mais il y a des témoins. Réglé.
Écoutez
il
bien.
Cas, hein.
Mais non.
Le propriétaire est toujours
Khayav. Mais non, pas du tout. Khayav Bacharayuto. Écoutez bien le din. Le din est que dans ce cas-là, Khayav Bacharayuto, le voleur est toujours responsable. Tant qu'il n'est pas prévenu. Tant que je t'ai pas prévenu, je t'ai rendu l'objet, le voilà, il est là. C'est comme si que j'ai rien fait.
D'accord. Vas-y.
On va comprendre tout de suite pourquoi. On va amener le deuxième cas, on va comprendre pourquoi. Maintenant, le Yadou Abéalim, le Bignevato, le Bachazirato. Deuxième cas. Si maintenant, le propriétaire n'était au courant, bien sûr, ni quand on lui a volé, ça c'est évident, et ni quand on lui a rendu, merci. Ou Manu et Tatson, et le problème c'est quoi? C'est que le voleur arrive à prouver qu'on a compté, on a fait le recensement, puisqu'on vient de Bamidbar, on a fait le recensement du bétail, et que c'est pas possible qu'il ait pas remarqué qu'il y en avait un en plus. T'as remarqué qu'il y en avait un en plus. Il n'est pas venu tout, il n'est pas venu nulle part celui-là.
C'est peut-être un le la comptabilité.
Ah, et si tu as compté, on a des preuves que tu as compté. Dans ce cas-là, Umanu et Tatsan ou Shlemaï, donc on a des preuves qu'on avait compté et que c'était Shlema, il était au complet. Dans ce cas-là, Patour, il est Patour, il n'a pas besoin de rembourser. Bon. Alors il y a une grande marloquette dans la Gemara entre Rav et Rav Frisda. Je vous dis rapidement la marloquette entre Rav et Rav Frisda. Il y a une marloquette, est-ce que, quand on a compté le bétail, et on s'est rendu compte apparemment donc, que le compte était bon, est-ce que le propriétaire doit se rendre compte qu'il y en a un en plus que ce qu'il y avait avant? Parce que vous savez, des fois, il y a tellement d'animaux que s'il y avait 997 ou 996, il ne s'est pas vraiment rendu compte.
Bah, au moment du décompte annuel, quand il fait ses maasrot, etc., bien sûr.
Alors, écoutez bien ce que dit la Gemara. Il y a un premier avis qui est Rav. L'avis de Rav, mais l'Halakha n'est pas comme lui. Rav, l'avis de Rav, il dit... Étant donné qu'il a compté, donc c'est déjà rentré dans la comptabilité, même s'il ne s'est pas rendu compte, puisque c'est déjà passé dans la comptabilité, c'est fini, on considère que ça a déjà été rendu. Ça, c'est l'avis de Rav. Rav Frisda n'est pas d'accord avec ça. Ah non, il s'est pas trompé. Il dit, c'est pas rendu compte parce qu'il n'a pas fait attention. Dès que c'est passé en compta, c'est fini. Ça, c'est l'avis de Rav. Rav Frisda n'est pas d'accord avec ça dans la Gemara. Rav Frisda, il dit non. Il dit, même si c'est passé en comptabilité, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que cette brebis, elle a pris l'habitude de sortir, elle était dehors. Et donc, une fois qu'elle a pris le goût à être dehors, elle va vouloir repartir dehors. Donc, tu es obligé de prévenir le propriétaire, de lui dire, attention, je t'ai rendu ton animal, et celui-là, garde-le bien pendant quelques jours, parce qu'il voudra repartir.
C'est du collatéral dans l'histoire.
Donc, puisque tu m'as pas prévenu, même si c'est passé en comptabilité, c'est considéré comme si tu l'as pas rendu. Et la lacha est comme ça. Une fois qu'elle a pris le goût, c'est fini.
Dis-moi, ça peut pas dissuader l'ex-voleur de non, rendre l'objet?
Ah oui, c'est... Alors, bonne question. La Gemara, elle dit, pourquoi le voleur? La Gemara a posé la question, elle dit, mais pourquoi le voleur, il a rendu?
Il va être pénalisé, le voleur.
Pourquoi le voleur, il a rendu sans prévenir? Parce qu'il a honte.
Bah oui.
Il préfère dire, bon, peut-être qu'il a pas vu quand je l'ai pris, il va pas voir quand je le remets.
Ouais, ça arrive, ça.
Ça arrive, ça marche pas. Ça
et pour une fois, ils ont pas jugé de se dire... comme ça, c'est pour aider, parce qu'il y a d'autres mises.
Non, parce que comme Rav Frisda, elle amène des exemples là-bas dans la Gemara. C'est pour ça qu'elle a l'air comme lui. Des exemples qu'on a vus, des animaux comme ça qu'on a volés, qui sont partis, qu'on a ramenés. Et après, ces animaux-là, ils sont repartis.
Mais est-ce que le problème, et si le problème, c'est pas rendu quand on lui avait volé quelque chose?
Ou alors ils sont tombés
à un vol.
Ça ne marche pas. D'accord.
Et je reviens après tout.
Bon, alors, Mishnatet, toujours dans les lignes de vol. En l'okrin minaroim, donc la halakha, je vous ai dit qu'elle a l'air comme Rav Frisda. Ça veut dire que, même si c'est passé en comptabilité, tant qu'on n'a pas prévenu le propriétaire, c'est considéré comme si on n'a rien rendu. Mishnatet. En l'okrin minaroim, on n'a pas le droit de prendre des bergers, donc d'acheter d'un berger, tsemer, de la laine, vechalav et du lait, Ougdaïm et des chevreaux.
Ouais.
Puisque vous imaginez que...
Il peut l'avoir tiré.
D'où il a de la laine, le berger.
Mais c'est pas le patron. Hein.
D'accord.
C'est tombé du troupeau.
C'est tombé du troupeau. Peut-être. Alors, ça, dans ce cas-là, il y avait, à l'époque, on appelait ça, c'était le métayer, un haris. Et il était payé comme ça. Et là, c'est un berger. Un berger, c'est son métier, c'est son métier.
Garder.
C'est de garder, c'est
un
tout.
Salarié.
Un salarié. Qu'est-ce qu'il fait avec la laine? Qu'est-ce qu'il fait avec du lait? On n'a pas le droit de le racheter. Même s'il te dit, mais non, je vous promets que c'est à moi, etc., à source d'acheter. Pourquoi? Puisqu'il y a un risque, peut-être ça a été volé.
Ou qu'on finisse par le pousser à voler.
Peut-être ça a été volé.
Eh oui.
Et même si lui me dit explicitement, non, je ne l'ai pas volé, c'est à moi, on ne peut pas lui acheter.
Si il l'a acheté,
d'accord? Si, et si, et si.
Ah, Marie,
vélo, michomré, ferrote, etsim ou ferrote. D'accord? Alors, on n'a pas le droit non plus d'acheter ni de ceux qui gardent donc des fruits, c'est-à-dire les gardiens de fruits, ceux qui gardent les fruits.
Enfin, les magasiniers, quoi, en général.
Si vous voulez, d'accord?
C'est clair, hein.
Pareil, donc tous ceux qui gardent le bois, tous ceux qui gardent tout, on n'a pas le droit de leur acheter.
Oui.
Oui, ça peut être un magasinier, il a raison.
Tous les magasiniers, donc tous les corps.
Un magasinier, un caissier, etc. Un caissier, il te vend des fruits. Nous, il les a sortis. T'as pas le droit de les acheter. Bon, mais à l'époque, c'était quand même... bon, c'était plus fort, parce que quelqu'un qui garde un champ, et il vient te vendre des fruits de ce champ. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ça peut être un cadeau, mais bon, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que comme il y a un risque de vol, on fait très attention à ça, on n'achète pas. Aval, mais... Peut-être, en général, ça c'est le haris. Le haris, il était payé en fruits. Le métayer, il était payé en fruits.
Oui, mais donc le métayer, salarié... il peut vendre.
Et donc il était payé au prorata, selon...
Oui, mais le salarié...
Non, en général, ça n'était pas payé comme ça.
Payé
si on sait explicitement qu'il est payé comme ça, c'est une chose. Mais en général, c'est pas payé comme ça.
Donc il y a une présomption de culpabilité, en fait.
Eh oui, une forte présomption de culpabilité.
Oui, mais... Et si on commençait à accepter ça, au jour le lendemain, on créerait des voleurs.
Ça peut être, mais sans même arriver là.
Il y a plus innocence, ouais. Alors.
Non, justement, il n'y a pas de présomption.
C'est pas
c'est le contraire.
Il y a pas...
présomption de culpabilité.
Le cas, dès le départ, est flou.
A priori.
Mais, aval, mais le crime, il est nashim, on a le droit d'acheter des femmes. Donc les femmes, qu'elles peuvent voler?
On va pas acheter des femmes.
Non, on a le droit d'acheter des femmes.
De chez des femmes.
De chez les femmes. Hein?
Auprès des femmes, d'accord.
Oui. Alors, une femme, de qui elle a pu voler?
Son mari.
Bah, elle peut être employée aussi, hein.
À l'époque,
bergère. De qui elle a pu voler une femme? De son mari, par exemple.
Bon. L'épouse de Boaz, elle est...
Aval, mais le crime, il est nashim, on a le droit d'acheter auprès des femmes. Clé de tes mères. Bi-Yehuda, alors des vêtements de laine, Bi-Yehuda en Judée, parce que là-bas on savait que les femmes travaillaient dans ça, ou Clefishtan, Bagalil, des vêtements en lin, Bagalil en Galilée, Va-Agalim, Bacharon, et des veaux, Bacharon, d'accord, dans le Charon. Pourquoi tout ça? Parce qu'on sait que dans ces endroits-là, les femmes avaient l'habitude de vendre ça, donc c'était connu. Mais les autres choses, il faut se méfier. Comment une femme tout d'un coup elle te met à te vendre des vêtements? Ça appartient à son mari. Donc on n'a pas le droit de lui acheter. Et des fois elle a besoin d'un peu de liquidité, etc. Elle se met à vendre. Tu peux pas. Le roulam chambrou. Maintenant dans tous ces cas-là, même dans les cas dans lesquels on a dit c'est permis. Bon aujourd'hui ça a un peu changé. Le roulam chambrou les atmin assour. Maintenant dans tous, même dans les cas dans lesquels on a dit c'est permis. Un cas dans lequel on a dit il n'y a pas de problème. Comme par exemple une femme qui me vend juste des vêtements de laine en Judée. D'accord. Mais si elle te dit quand elle te dit cache-le. Les atmines.
C'est chaud.
Là déjà c'est un peu
c'est louche.
Là dans ce cas-là...
Elle te le vend déjà deux fois moins cher.
Il y a un distinguo.
Non, ça on n'a pas dit. Non, non, non. Ah non, 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 elle te le vend au bon prix. Cache-le.
Il y a un distinguo si des choses sont neuves ou ses propres affaires et elle a plus que ça pour s'en tirer. C'est des trucs comme d'occasion.
Ça appartient à son mari quand même.
Attends, ça peut être une veuve qui vend ses propres vêtements.
C'est pas de mari.
Ou les vêtements de son propre mari.
Pas de mari dans ce cas-là, tu sais.
Et alors?
Bon, ça a un peu changé aujourd'hui.
C'est
un
cas particulier, ça.
Il cherche toujours, non, il aime toujours un cas particulier.
Mais non, mais c'est ça, le cas particulier. Qui nous emmène à la halakha.
Alors, dans ce cas-là, là, on a une forte présomption que l'objet est volé, c'est sûr. Quand, non, mais la Gemara explique pourquoi on dit que, pourquoi la Mishnah a besoin de nous le dire. C'est évident si quelqu'un te demande de le cacher. Alors, il y en a qui expliquent que non, pas du tout. La Gemara explique qu'il y a peut-être d'autres raisons pourquoi une personne te demande de le cacher. Peut-être par exemple que cette personne est une personne qui a les moyens et qui n'a pas envie qu'on sache qu'il passe par une période difficile. Donc il dit écoute, je le vends, mais les gens savent que c'est un objet qui m'a appartenu, alors garde-le, fais-toi discret avec. Ça peut être ça.
Tu fraudes le fisc.
D'accord? J'en sais rien pourquoi.
Tu fraudes le fisc.
Donc on peut avoir d'autres raisons. Mais dès que quelqu'un te demande de cacher quelque chose, tout de suite, c'est flou. C'est un problème. Vélo crime, betsim, vétarnégolim, mikol makom. les œufs et les poules, ça on considère qu'à l'époque c'était quelque chose que tout le monde avait à la maison et que même les gens pauvres en avaient à la maison. Donc c'est pour ça qu'on avait le droit d'en acheter. Ça veut dire que de là on apprend que quelque chose que tout le monde a à la maison, quand il te le revend, même s'il travaille dans une boutique qui en vend, puisque normalement il en a chez lui aussi à la maison, tu peux lui acheter sans problème. D'accord ? Oui ?
Ça se rattache à tous les cas de la Mishnah ou
tous les cas.
Que les femmes ?
Pour le cacher ?
Oui. Non. Pour les œufs et la poule.
Ah ben les œufs c'est pour tous les cas. Mikol Makom, il a dit partout.
Partout.
Alors Maïmonide il rajoute néanmoins, ça se dit les deux. Maïmonide il rajoute néanmoins, il dit que même dans le cas des œufs et des coques, si le vendeur se demande de les cacher, faut faire attention, t'as pas le droit d'acheter. Mais ça c'est Maïmonide qui rajoute.
Cacher des œufs.
Je te dis qu'il y a... Achète les œufs et tu les caches, hein, tu me montres pas. Bon. Un peu, je sais pas comment on peut reconnaître des œufs, vous reconnaissez des œufs ?
Non mais souvent le prend en photo, on fait des pubs avec et tout, et c'est délicat, c'est vrai. Attends, les œufs, on les mange.
C'est déjà la raison.
La raison de quoi ?
Pourquoi on a défini des principes pour éviter le vol, et puis ces principes sautent pour les œufs et les poules.
On a expliqué, parce que les œufs et les poules, tout le monde en a. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de présomption de vol dessus. Il en a à la maison. C'est-à-dire, c'était, si tu veux, quand il voulait faire un peu de business, tout le monde avait chez lui un petit peu des œufs, des poules, et il donnait des œufs, il vendait des œufs. C'est pas quelque chose que t'as besoin de voler.
Donc un magasinier pourrait avoir des œufs ou des poules. Et
bien
donc,
sûr, il en a.
Tout le monde en avait, on avait des œufs.
Pourquoi ça ne s'applique pas à la laine ?
Parce que ça, pas tout le monde en a. Pas tout le monde a exactement la même laine que tu vends.
Des fruits.
Oui, des fruits. Attends, ça dépend quel fruit. Il travaille dans les pommes, il te vend pile des pommes, les mêmes pommes qu'il a. Il y a un problème.
Mais oui, il peut quand même avoir un pommier dans son jardin.
Oui, il peut, mais c'est pas quelque chose que tout le monde a. Donc c'est douteux.
D'accord.
Tu vas aller vérifier chez lui, est-ce qu'il a un pommier, est-ce qu'il n'a pas de pommier.
Pourquoi les poules et les œufs, tout le monde en a ?
Tout le monde en avait à l'époque.
Alors, et pour les femmes ?
Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de
pommier. Pourquoi c'est autorisé pour les femmes ?
Pourquoi
c'est autorisé pour les femmes ? Pourquoi la barrière pour les femmes saute ?
La barrière ? Non, c'est des choses en Galilée, en Judée, etc.
Non, oui. Non, c'est une permission, mais de manière générale.
Pareil, parce qu'on savait qu'on avait à la maison et qu'on le vendait. C'est quelque chose de connu, que la femme vend, le mari vend, c'est quelque chose de connu. C'est un business qui était connu. On n'allait pas vérifier derrière ce business. D'accord ? Moi, je trouve que c'est logique. C'est normal. C'est-à-dire, comme c'est quelque chose que tout le monde a l'habitude de vendre, donc on pose pas de questions sur ça.
C'est la présomption. Il y a des cas où on pense que c'est...
Maintenant, enfin, la dernière Mishnah, Mishnah Yud, 10e Mishnah du 10e chapitre de Baba Kama. Mochin, on termine avec la Bezrat Hashem, voilà. Mochin, Chakoves Motsi. Alors, le Koves, c'est le teinturier. Enfin, celui qui va. Le blanchisseur. Comment il traduit ici, Koves ? Blanchisseur, d'accord. Celui qui lave. Ça vient du mot Kvissa. Kvissa en hébreu, comme en hébreu on dit Mechonat Kvissa. C'est une machine à laver. Donc, Mochin, Chakoves Motsi. Vous savez, quand on lave la laine, il y a des fibres qui sortent. Avec ces fibres-là, si le blanchisseur sait y faire, il peut refaire,
rôtisser,
d'accord, il peut rôtisser et refaire du linge avec.
Oui,
bien sûr. Surtout que la laine de l'époque n'était pas la même qualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la laine qu'on a est travaillée, etc. Mais la laine de l'époque, c'est sûr qu'il y avait toujours des chutes.
Ni les machines de l'époque, d'ailleurs.
Mochin Chakovets Motsi Arelu Shelo. Dans ce cas-là, à qui ça appartient ? À qui ça appartient,
c'est... blanchisseur.
Ça appartient au blanchisseur. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le propriétaire de la laine ne fait pas attention. Lui, il a donné un vêtement, il veut récupérer un vêtement, il ne prend pas la tête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au milieu. Moi, je t'ai donné un vêtement, tu me rends un vêtement.
C'est un film, en plus.
D'accord ? Ah non, c'est pas forcément un film. On verra après qu'il y a des cas dans lesquels il y a beaucoup plus.
Il apporte 1000 vêtements. Ça fait un gros paquet.
Ça lui fait un vêtement, il peut faire un vêtement avec. C'est beaucoup, hein. C'est comme les vieux pulls de laine. Vous savez, les pulls de laine que les grand-mères, elles faisaient, là.
Il n'y avait pas la chine.
Ouais. Un pull comme ça, vous le mettez vous mettez en machine, vous récupérez de la laine, hein.
C'est quand ça... Ouais, le tissage, j'étais pas ce que c'est aujourd'hui, quand même.
Arrêt, loup, chez l'eau. Donc ça, dans ce cas-là, le blanchisseur a le droit de les garder. Véchea Sorek Moti, par contre, des fois, on a amené un vêtement pour le peigner. C'est un peu comme le repassage aujourd'hui. D'accord ? Pour le peigner, pour l'élargir, etc. Là, dans ce cas-là, on considère que quand on peigne, il y a beaucoup de chutes. Et là, le propriétaire, il dit, ah non, ça, je donne pas.
C'est même pour les marchés.
Ça veut dire, quand c'était le blanchisseur, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chutes, il dit, bon, je ne vais pas se prendre la tête avec ça. Quand il amène chez celui qui va, comment il se traduit, Sorek ici, le...
Un quart d'heure.
Quart d'heure, ils ont... D'accord.
Ouais, quart d'heure. Même voilà. Pour les matins, en fait.
Là, il y a beaucoup de chutes. Là, il y a beaucoup de chutes.
Sur la laine, tu l'as...
Comme il y a beaucoup de chutes, dans ce cas-là, il n'est pas mochel, il n'a pas pardonné, donc il veut récupérer ce qui est tombé. Dans ce cas-là, Arelou Shel Baal HaBayit, on doit les rendre au Baal HaBayit. C'est-à-dire que c'était des cas qui existaient à l'époque, hein. C'était des cas.
Les quarts d'heure, ça existe encore.
Akoves, Notel Shlosha Khoutim, VM Shelo.
4 quarts d'heure, ça fait une heure.
4 heures. Quart d'heure ou quart d'heure ? Quart d'heure. C'est quoi quart d'heure ?
Le verbe carder.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah, corps, d'accord. Carder comme corps ? C'est quoi, c'est quoi la racine ?
C'est là que vient le mot quart d'heure.
Ah, le quart d'heure, d'accord, ok. Alors, Akoves, toujours le blanchisseur, Notel Shlusha Khoutim, il a le droit de prendre 3 fils, donc qui sont au bord du vêtement. Non, on rentre dans les tailles techniques, hein, c'est les tailles de l'époque. Ve'en shelo, et ils sont à lui. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient l'habitude de tisser des vêtements de laine, ils avaient l'habitude toujours, de, à la fin du vêtement, de mettre un petit peu de fil en plus. D'accord ? Et on savait que ce fil-là, on pouvait l'enlever après. C'est un petit peu l'équivalent des boutons qu'on a aujourd'hui. Vous savez, les boutons qu'on rajoute. C'est en plus.
Pour la réparation.
Voilà, pour la réparation. Donc ça, dans ce cas-là, enfin, les boutons aujourd'hui, le blanchisseur n'a pas le droit de les enlever. Mais à cette époque, le blanchisseur avait le droit d'enlever ses fils. Il faut comprendre qu'avec beaucoup de fils comme ça, le blanchisseur peut faire un vêtement. Parce que la laine, on peut la rotisser, on peut faire ce qu'on veut.
Oui, mais tu peux me faire un matelas, des coussins, des tas de choses.
Mieter Miken, plus que 3 fils. Arelou Shel Baal HaBayit, là dans ce cas-là, ça appartient au Baal HaBayit, ça veut dire on doit tout laisser au Baal HaBayit, propriétaire. Imaya Shachor, bon j'avance un petit peu vite parce que ça c'était le cas de l'époque. Imaya Shachor Al-Gabé Lavan, Notel et Takol Ven Shelo. Si c'était des fils noirs qui étaient tissés sur des fils blancs, dans ce cas-là, le blanchisseur peut récupérer les fils noirs. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les fils noirs ne font pas partie du vêtement et au contraire, elles vont dégrader le vêtement. Dans ce cas-là, il a le droit de les enlever et il peut les garder. Par contre, le contraire, c'est pas bon. Parce qu'on considère toujours que le fil blanc est le beau fil, et des fois, il y a des fils qui noircissent. Donc ces fils-là, il a le droit de les enlever. Et on ne peut rien lui dire. Achayet, Shiyar, Minachut, Kedelit, Porbo. Un autre problème qu'il y avait à l'époque, un couturier à qui on a donné du fil pour faire un vêtement. Ou bien un couturier auquel on donne du tissu. Et il reste du fil, il reste du tissu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce fil ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce tissu ? Ou matlitchi, chalosh al chalosh, ou bien, s'il a laissé un morceau, donc soit on lui a donné du fil, il a laissé du fil, soit on lui a donné du tissu, et il a laissé un morceau de tissu qui est au moins grand de chalosh al chalosh, ça veut dire 3 doigts sur 3 doigts. Donc c'est combien, on va dire, ça fait 10 cm sur 10 cm, c'est le minimum. À partir de ça, il faut rendre. On considère que le propriétaire, il veut récupérer son tissu. Arelou shel Baal HaBayit. Après, à ce propos, on raconte une histoire. Le rabbi précédent, dans ses mémoires, il raconte une histoire, il raconte quand il était petit. Une fois sa mère, il y avait un mariage dans la famille ou un truc comme ça. Alors à l'époque, comment ça se passait ? On achetait du tissu, on l'amenait chez le couturier nous préparait le vêtement avec. Donc lui, il est parti avec sa mère pour aller chez le couturier pour donner le tissu. Bon, ils ont donné le coupon, on appelle ça ? Ouais. Au Maroc, on appelle ça comme ça, le coupon ?
Ouais, je sais pas.
Donc ils ont donné le coupon, d'accord ? Revenez quelques jours plus tard, le vêtement sera prêt. D'accord ? Il revient quelques jours plus tard. La robe est prête, pas de problème. Elle essaye, tout va bien, pas de problème. Et le rabbi précédent, il raconte, c'est un petit enfant, il raconte qu'il a remarqué dans la poche du couturier, il a remarqué un morceau du tissu, le même tissu que la robe de sa mère. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait, le réflexe d'un enfant ?
Il a pris.
Non, il n'a pas pris.
Il a demandé.
Il a dit, mais c'est quoi ce... Et l'autre, blême.
Il a grillé, ouais.
Il a raconté dans ses mémoires, ça l'a marqué. Il a raconté dans ses mémoires qu'après, quand il est rentré chez lui, son père, sa mère, ils ont tous fait un scandale. Bien comment sûr. T'as pu faire honte à quelqu'un ? Et on était mochel dessus, c'est pas grave. Ouais. Il a fait honte. L'autre, du coup, après, chaque fois qu'il voyait le rabbi, il a eu honte. Ça, c'est le cas d'ici. Normalement, c'est vrai, il avait pas le droit de le prendre.
Bien
mais bon, on regarde pas. Et de là, il a dit que, de le rabbi Preston raconte dans ses mémoires, il dit que de là, après, il a appris à être beaucoup moins regardant. Non, c'est vrai, parce que bon, on a
un regard. Peut-être petit, il avait cette intention de le rendre.
Peut-être. Bon.
Je veux savoir. Allez, la rave de regarder.
En tout cas, il a pris ça quand il était enfant. Alors, Masha Harash Motsi Bamaatsad. Bon, là, il me faut les traductions en français, parce qu'il y a des mots.
Tout charpentier, on est vecteur à bon.
Alors, Maatsad et Kachil.
Allez, copo.
D'accord
La sueur.
Non. Maatsad, il y avait deux. Ça, je connais pas les mots français. Le rabot et après le
rabot et la hache.
Ah, le rabot et la hache. La traduction hache.
Oui.
Cachille la hache. Bon. Ouais, c'est pas une hache. Ça ressemble à une hache. C'est pas une hache. Je crois qu'il y avait un mot particulier. D'accord, ouais.
Bon, il va donc faire de la sciure et des copeaux.
Voilà.
Donc,
alors, mâche à harash, moti bamaatsad. Ce que le harash, donc ça veut dire le menuisier, moti bamaatsad.
rabot.
Il fait sortir avec le rabot, Aré et Louchelo. Pourquoi? Parce que si ceci c'est des rabots, c'est des petits morceaux que... Lui, il peut faire quelque chose avec. Lui, il peut faire quelque chose avec. Mais celui qui lui a commandé le travail, il va rien faire avec. Donc il lui laisse. Quand Aval, mais... Ou Bakashil, Aré et Louchelo Balabait. Par contre, ce qu'on fait Bakashil avec la hache, que là c'est des gros morceaux, là, il ne laisse pas. Par exemple, je vous donne un exemple moderne. Aujourd'hui, vous amenez votre voiture à réparer chez le garagiste. Le garagiste va récupérer une pièce et il va faire quelque chose avec.
Ce qui
arrive assez souvent.
Il la recolle même à un autre.
Il la recolle à un autre, c'est pas ce qu'il a fait avec. Échange standard.
Non mais nous on n'en veut pas aussi.
Bien sûr. Nous on n'en veut pas. Alors dans ce cas-là, voilà. C'est vrai que pour lui c'est important, mais comme pour moi c'est pas important, dans ce cas-là je lui laisse, pas de problème. Non, par exemple, je sais pas moi, il change le démarreur, il va l'envoyer à réparer, il va récupérer le démarreur. Fais ce que tu veux avec, moi j'en ai pas besoin.
Personne n'en veut.
D'accord. Là dans ce cas-là il peut. Ça c'est l'exemple des comment on appelle ça, des rabots. Par contre, dès qu'il s'agit de gros morceaux que là la personne peut récupérer, et c'est possible que le propriétaire n'est pas au courant qu'on a enlevé un gros morceau. C'est le garagiste, on n'est pas au courant de ce qu'il a fait. Il peut enlever des trucs, remettre des trucs, c'est pas ce qu'il a fait. Si c'est un morceau important, qu'on pense que le propriétaire aurait voulu le garder, on est obligé de le rendre.
À une époque, on faisait les vidanges, on donnait le reste du bidon d'huile, maintenant on te donne plus.
Maintenant, écoutez bien la fin de la Mishnah.
Mais moi il m'a rendu toutes les pièces usagées.
Vi Maya, allez messieurs, on y va. Vi Maya aussi tel balabait. Par contre, il y a une exception. C'est que si le menuisier se déplace à la maison, si le garagiste se déplace et qu'il travaille chez vous à la maison, là dans ce cas-là, il n'a pas le droit de piquer des pièces. Là dans ce cas-là, il est obligé de donner toutes les chutes. Pourquoi? Parce qu'il travaille chez moi. Et le fait que j'ai fait venir travailler chez moi, ça veut dire que je veux tout garder. Si j'amène ma voiture chez lui, si j'amène le bois chez lui, là dans ce cas-là, je lui fais comprendre que bon, les petits morceaux tu peux les garder, j'en ai pas besoin. Mais dès que je le fais travailler chez moi, c'est mon employé, c'est devenu comme mon employé, et donc du coup, rien ne lui appartient. Alors Maïmonide, à propos de cette Mishnah, il dit que dans toutes ces choses-là, Olchim Achar Minag Amedina, c'est-à-dire que faut pas prendre ce que la Mishnah nous a dit ici, c'est pour ça que je suis allé un peu vite, faut pas prendre ce que la Mishnah nous a dit ici comme la halakha. La Mishnah a fait simplement ici que s'adapter par rapport aux minagim de l'époque, aux habitudes de l'époque. Donc par rapport à ça, elle a dit, bon, selon l'habitude, on fait ci, on fait ça. Mais si les habitudes du pays ont changé, et que maintenant on a décidé par exemple que même les gros morceaux de bois, on les laisse, eh ben on les laisse. C'est-à-dire qu'il faudra toujours se baser à l'air Achar Minag Amedina, donc on devra enquêter quel est le minag du pays, et par rapport à ça, on devra suivre le minag du pays. Slik Maserhet Babakama, avec ça, on a terminé la Maserhet Babakama, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de la réviser encore une fois. Et Bezrat Hashem, dès la semaine prochaine, on passe... Terminé. Slik, ouais. Et Bezrat Hashem, dès la semaine prochaine, on passe à la Maserhet Baba Metzia. Donc si vous voulez acheter, c'est toujours le même. C'est la deuxième partie de la Mishnah Babakama, Baba Metzia. Voilà, la semaine prochaine, Bezrat Hashem.